Est-ce que vous sentez que votre vie est déséquilibrée et que vous avez besoin de paix?
Eh bien, restez avec nous aujourd'hui et apprenez comment vous pouvez contrôler votre vie plutôt que de laisser votre vie vous contrôler. Tout de suite à l'antenne. Quand Jésus vient vivre en nous, il vient vivre dans notre esprit. C'est la partie la plus profonde de notre être. Vous êtes un esprit, je suis un esprit, nous avons une âme. Nous vivons dans un corps. Vous voyez mon corps. Vous ne pouvez pas voir mon âme de vos yeux physiques, mais vous pouvez voir ce qui sort de mon âme ou vous pouvez sentir ce qui sort de mon âme. Parce que votre âme est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Elle vous dit ce que vous pensez, voulez et ressentez, mais elle ne vous dit rien sur Dieu. Si vous voulez savoir ce que dit Dieu, vous devez aller plus profondément. Vous devez apprendre à marcher dans l'esprit et à être mené par l'esprit, et non pas être mené par votre chair ou être mené par le diable. Le Saint-Esprit mène et guide. Le diable essaye de nous pousser, la chair essaye de nous pousser, elle essaye de nous forcer, de nous manipuler. Mais le Saint-Esprit est doux et il nous mène et nous guide. Il y a donc plusieurs domaines où nous devons avoir des frontières. Et quand nous aurons ces frontières, nous jouirons bien davantage de notre vie. Combien d'entre vous aimeraient jouir de leur vie plus qu'ils n'en jouissent en ce moment? Bon, eh bien la première chose dont nous allons parler et en finir, car je sais que vous ne voulez pas en parler, c'est le comportement alimentaire. Vous ne croyez pas que c'est gentil que j'ai décidé d'en finir depuis le début. Nous devons assumer la responsabilité de nos vies et la responsabilité de nos appétits et arrêter de laisser la fourchette nous mener à la baguette. C'est très navrant quand il y a un morceau de tarte sur une table, que vous laissiez ce morceau de tarte vous dicter vos actions. Amen. Quelqu'un m'a offert un jour un paquet de cacahuètes enrobées de chocolat car il a su que je les aimais. S'il vous plaît, ne m'en envoyez plus. Donc quelqu'un me les a offerts et je les ai aimés. Et la première erreur que j'ai faite était de les prendre et de les cacher dans une partie du réfrigérateur, dans le beurrier précisément, c'était dans la porte du frigo et ce n'était pas transparent. On ne voyait pas ce qu'il y avait dedans. C'était mes cacahuètes enrobées de chocolat. J'avais décidé de bénir ma chair de l'une d'elles tous les soirs après le dîner. Mais vous savez, la chair est plutôt folle. Et elle n'est jamais satisfaite de ce que vous lui donnez. Pas pour longtemps. Vous lui donnez une, elle en veut deux. Vous lui donnez deux, elle en veut trois. Donc pendant, je ne sais pas, quelques jours, une cacahuète me suffisait. Et peu de temps après, ma chair m'a dit « j'en veux deux ». Puis elle m'a dit « trois ». Puis elle est arrivée au point où... j'achetais des cacahuètes enrobées de chocolat et je les cachais dans le frigo. Et ça empirait et je me rappelle de soirées où je me levais de la table tellement repue que je pouvais à peine bouger et ma chair me disait « je veux ma cacahuète ». Combien d'entre vous comprennent que je laissais ces cacahuètes me mener à la baguette et que ce n'est pas la vie que Dieu veut pour nous et que ce n'est pas la liberté? Parce qu'il y avait une partie de moi qui me forçait à faire quelque chose que notre partie de moi ne voulait pas. Je pouvais prier là-dessus autant que je voulais, mais j'ai dû prendre la décision de prendre le contrôle de mon âme. 1 Corinthiens 6, 12. Toutes choses me sont permises, admissibles et légitimes, mais toutes choses ne sont pas bonnes et utiles. Toutes choses ne sont pas opportunes et profitables tout compte fait. Toutes choses me sont légitimes, mais je ne me laisserai asservir par rien ou être sous son... n'en prise. Donc voici plutôt ce que dit Paul. Il dit « Je peux essentiellement faire tout ce que je veux. La parole de Dieu n'est pas une prison pour moi. L'Esprit de Dieu ne m'emprisonne absolument pas. C'est une frontière pour ma vie et une frontière qui dit « Si tu fais ce que je te dis de faire, tu t'épargneras des ennuis. » Mais Paul dit « Je peux faire tout ce que je veux faire. Cependant, certaines des choses que je pourrais faire ne sont peut-être pas la meilleure chose pour moi. » Donc il dit « Vous savez, je peux sortir d'ici si je veux. Je peux trébucher sur tous les rochers, je peux tomber dans tous les pièges que je veux. Mais à quoi bon vivre comme ça quand Dieu nous montre une meilleure voie ?» Qui sait, en ce moment, sans que j'ouvre ma bouche pour dire un mot de plus, que s'il fait systématiquement ce que ce livre lui dit de faire, sa vie sera dans une condition bien, 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 bien meilleure qu'elle ne l'est en ce moment. Vous voyez, il y a une chose intéressante à laquelle j'ai commencé à beaucoup penser. Nous vivons dans une époque explosive de connaissances. Non, mais tout ce que nous voulons savoir, nous pouvons lancer une recherche Google et la voir. Nous avons la parole à la télé, nous l'avons à la radio, nous avons des CD et des DVD, et nous avons des livres, et nous avons des séminaires, et des conférences, et nous avons des églises. Et donc, pratiquement, nous savons probablement beaucoup plus que quiconque a jamais su dans l'histoire, et nous avons plus de problèmes que nous n'avons jamais eu comme société, et probablement dans l'ensemble, les gens mènent des vies moins pieuses que celles d'il y a 100 ans, quand les gens ne savaient pas autant que nous croyons que nous savons. Donc, j'ai commencé à vraiment y penser et à en parler, et à défier les gens de comprendre qu'ils ne connaissent rien de la parole s'ils ne la mettent pas en pratique. Ce n'est pas parce que vous la soulignez dans votre Bible que vous la connaissez. Ce n'est pas parce que vous la surlignez en jaune que vous la connaissez. Le seul moyen de savoir que nous connaissons quelque chose, c'est de le mettre en pratique. Et donc, si nous apprenons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, nous vivrons à ce moment-là à l'intérieur de ce lieu sûr et nos vies seront très, très, très merveilleuses. Maintenant, en ce moment, la salle est pleine de gens et il y a des gens, des millions qui nous regardent à la télé. Vous pouvez facilement me dire la chose que Dieu vous a dit de faire et que vous n'avez pas faite. Dieu ne va pas changer d'avis. Si vous attendez pour voir s'il va changer d'avis, croyez-moi, il ne va pas changer d'avis. J'ai beaucoup d'expérience là-dessus. Et finalement, écoutez-moi maintenant, parce que c'est vraiment un bon conseil maternel. Finalement, soit Dieu fera à son idée, soit vous serez malheureux et misérables. Amen. Vous savez ce qu'on dit d'une famille? Si maman n'est pas contente, personne n'est content. Eh bien, disons-le comme ça. Si Dieu n'est pas content, aucun chrétien n'est content. Parce que Dieu vit au-dedans de nous. Et si nous voulons avoir la joie dans notre vie, nous devons faire tout ce qu'il nous dit de faire. Et j'espère pousser certains d'entre vous à dire ce soir, « Vous savez quoi? Je ferai aussi bien d'en finir avec ça et de le faire à la façon de Dieu et d'aller de l'avant et d'arrêter de lutter. » Parce que je suis malheureux. Maîtrisez votre âme et contrôlez-la. Donc, Paul dit, je peux faire tout ce que je veux, mais toutes choses ne sont pas bonnes pour moi. Savez-vous qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et vous en tirer et toujours aller au ciel? C'est vrai. Manger de la malbouffe tout le temps ne vous empêchera pas d'aller au ciel. Déclarer votre faillite ne vous empêchera pas d'aller au ciel. Gaspiller votre temps ne vous empêchera pas d'aller au ciel. Mais voici ce que ça va faire. Ça vous rendra malheureux et vous ne serez pas un très bon témoin pour les autres. Et nous devons comprendre que Jésus est mort pour que nous ayons une vie formidable et nous devons faire tout pour coopérer avec le plan de Dieu et avoir la vie qu'il est mort pour nous donner. Maintenant, Paul fonce. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu mettra fin à la fonction des deux et les anéantira. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, mais il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps, pour le sauver, le sanctifier et le ressusciter. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Paul dit « Je peux faire tout ce que je veux, mais toutes les choses ne sont pas bonnes pour moi. Il faut donc que je me maîtrise. » Les deux choses qu'il mentionne sont notre appétit pour la nourriture et les appétits sexuels qui causent tant de problèmes pour tant de personnes aujourd'hui dans notre société. Maintenant, vous devez vous occuper de vous-même et vous devez vous occuper de vous-même puissamment et fermement. Vous devez prier contre la tentation. Jésus a dit aux disciples, dans le jardin. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais ils se sont endormis. C'étaient des chrétiens somnolents qui n'étaient pas agressifs et ne venaient pas contre les choses.
Il y a des choses vraiment importantes et intéressantes dans la Bible, même sur l'appétit. Vous serez content quand j'aurai fini de l'appétit. Je n'en ai pas pour longtemps.
Proverbe 23:2 dit « Mets un couteau à ta gorge si tu es gourmand.
» Or, je suis sûre que Dieu ne veut pas que nous nous coupions la gorge, mais il essaye de nous dire de ne pas manger outre mesure. Nous ne devons pas vivre pour manger. Nous devons manger pour vivre. Et nous devons comprendre que nos corps sont le temple du Saint-Esprit et faire attention aux choses que nous y introduisons. Certains font plus attention à l'essence qu'ils mettent dans leur voiture qu'aux choses qu'ils mettent dans le temple de Dieu.
Ensuite, Matthieu 5:29 dit « Si ta main entraîne ta chute, coupe-la. » Si ton œil entraîne ta chute, arrache-le. Là encore, il ne nous demande pas de couper notre main et d'arracher notre œil et de couper notre gorge. Mais pour moi, ce qu'il dit, c'est « Écoutez, vous devez vous maîtriser. Je vais donc partager avec vous certaines frontières que je me suis imposées dans certaines de mes habitudes alimentaires et peut-être que cela vous aidera. Peut-être que vous espérerez vous lever un jour et ne plus vouloir le truc, ça ne va pas arriver. » Peut-être que vous espérez vous lever un jour et ne pas avoir faim, eh bien ça ne va pas arriver non plus. Vous devez donc prendre des décisions si vous voulez vous sentir mieux. Combien d'entre vous voudraient se sentir bien quand ils vieilliraient? Ça dépend en grande partie de la manière dont vous vous occupez de vous-même en ce moment. Vous pouvez boire du soda toute la journée et du café toute la journée. Et plus vous vieillissez, plus votre peau va s'abîmer. Mais si vous buvez beaucoup d'eau propre et fraîche, vous serez absolument stupéfié de la beauté de votre peau. Pas seulement maintenant. Vous serez stupéfié de votre énergie. Et je n'essaye pas ce soir de vous donner une leçon de santé. J'ai plein d'autres choses dont je veux vous parler. Mais l'eau constitue 70% de votre corps. Et si vous n'en buvez pas assez, il n'y a pas une cellule ou un organe dans votre corps qui fonctionnera de la façon dont il est censé fonctionner.
Eh bien, je n'aime pas l'eau.
Eh bien, apprenez à l'aimer. Buvez-la jusqu'à ce que votre corps stupide vous dise « Donnez-moi davantage ». Votre corps veut la chose à laquelle il est habitué, donc c'est parti. Je me suis imposé des barrières et des frontières parce que je veux me sentir bien. Je ne veux pas me sentir fatigué tout le temps. Je ne veux pas me sentir mal tout le temps. Je veux continuer à faire ce que je fais jusqu'au jour où Jésus va me prendre chez lui. Et je sais que pour faire ça, je devrais m'occuper de moi-même. Donc, je bois du café. Mais ma frontière est que je bois 2 tasses par jour. Nous n'allons pas parler de la grandeur des tasses, mais... Hé, nous faisons des progrès. Maintenant, de temps en temps, écoutez-moi, de temps en temps, parce que je ne veux pas que mes frontières deviennent une prison. Donc, de temps en temps, si je bois mes 2 cafés tôt dans la journée et que peut-être nous sortons dîner, un dîner agréable, et que je veux une 3e tasse de café, je sors de la porte de ma barrière et je prends cette 3e tasse de café. Mais le jour d'après, je reviens à ma frontière. Vous voyez, ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps dans votre alimentation qui va ruiner votre santé. C'est vivre sans frontières tout le temps. Je vais vous donner ce soir une responsabilité. Si vous ne voulez aucune frontière, vous feriez aussi bien de partir maintenant parce qu'il y a beaucoup de trucs à propos desquels nous prions et nous attendons que Dieu les fasse à notre place. Mais la vérité, c'est qu'il nous donnera la force de les faire. Mais il nous faudra combattre le bon combat de la foi, tenir ferme, mettre quelques frontières dans notre vie et laisser notre chair piquer sa crise jusqu'à ce que nous la maîtrisions de nouveau. Mes cacahuètes m'ont manqué quand j'ai d'abord arrêté de les manger. La vérité est que maintenant, je ne pense aux cacahuètes enrobées de chocolat que quand je raconte cette histoire. Et franchement, je pourrais avoir tout un paquet de cacahuètes enrobées de chocolat dans ma chambre. Car beaucoup de fois, soit on m'envoie des douceurs, soit l'hôtel nous donne des douceurs. Et je ne suis même pas tentée de les manger.
Mais il y avait un jour où ça a été plus fort que moi. Et croyez-moi, votre chair n'exigera que ce qu'elle a l'habitude d'avoir. Comprenez bien ça. Vous dites, je suis adonnée au sucre. Eh bien, vous ne le serez pas si vous l'enlevez de votre corps. Votre chair va piquer une crise. Mais vous vous y habituerez. Et vous serez très content. Eh bien, et les desserts alors? Eh bien, j'ai une frontière de 2 desserts par semaine. Je prends 2 desserts par semaine. Et j'en jouis quand je les prends. Non, mais je les attends avec impatience. Et j'en parle. J'ai déjà un gâteau jaune avec un glaçage au chocolat qui m'attend en rentrant à la maison. Et j'en jouirai. Mais vous voyez, je peux faire ça 2 fois par semaine et me sentir toujours bien et avoir toujours le poids que je veux avoir et sentir toujours que je m'occupe de moi-même. La parole de Dieu n'est pas une prison, mais elle nous dit ce que nous devons faire pour nous occuper de nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous mangeons le gâteau, nous aimons le gâteau, donc maintenant notre petite âme se déchaîne et nous voulons du gâteau tous les jours. J'aime la crème fouettée dans mon café. Et j'ai commencé à boire de la crème fouettée dans mon café. Et peu de temps après, mes pantalons sont devenus serrés. Donc maintenant, je jouis toujours de la crème fouettée dans mon café, mais ma frontière est 1 fois par semaine. Et demain est le jour. Et vous savez quoi? Une des choses que j'ai apprises, vous devez être intelligent. Vous voyez, quand je fais ces conférences, je travaille vraiment dur. Et quand je finis, demain matin, je vous aurai donné tout ce que j'ai. Et ensuite, je dois rentrer à la maison et reprendre des forces pour pouvoir faire une autre conférence le week-end suivant ou le week-end d'après. Et j'aime beaucoup ça. C'est ce que je suis appelée à faire, mais j'ai appris que quand je finis et que je suis fatiguée, je dois faire quelque chose pour moi-même. Parce que sinon, je vais commencer à dire « Je ne fais que travailler. » Donc, vous savez quoi? Cette crème fouettée dans mon café demain va revigorer ma chair. Et ce petit peu de gâteau va revigorer ma chair. Mais je reviendrai ensuite tout droit à ma frontière, car je ne veux pas avoir une âme déchaînée. Allez, est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je ne vis pas dans une prison où tout ce que je fais tout le temps, c'est de me priver. Mais je refuse à mon âme le droit de me dominer et de me mener à la baguette tout le temps. Et je crois vraiment que nous sommes tellement excessifs. Soit nous ne faisons rien, soit nous faisons tout. Si je goûte à un biscuit, j'en mangerai 12. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas censé vivre comme ça. J'aime beaucoup les pâtes et je pourrais en manger tous les jours. Mais j'essaye de me limiter à 1 fois par semaine. J'essaye de boire 3 litres d'eau par jour, mais je commence à sentir que je vais me noyer. Je ne sais pas, c'est beaucoup trop. Mais on me dit que parce que je voyage beaucoup et que je parle beaucoup, je dois boire alors au moins 3,5 litres d'eau par jour. Quand je voyage et que j'ai beaucoup de décalage horaire, je dois parfois prendre des somnifères pour pouvoir dormir la nuit. Mais vous savez quoi? Je n'en prends pas plus de 2 nuits de suite parce que je ne veux absolument pas m'y adonner. Maintenant, peut-être que certains d'entre vous doivent prendre des somnifères tout le temps. Ce n'est pas une session pour vous donner mauvaise conscience. Mais j'essaie juste de vous faire remarquer que nous ne devons pas former des dépendances et que si nous nous imposons des limites, notre âme ne pourra pas nous dominer ou nous contrôler. Maintenant, là encore, ce n'est pas une session de critique. Certains d'entre vous sont peut-être obligés de faire quelque chose pour différentes raisons. J'utilise ceci comme un exemple car c'est une des choses pour lesquelles j'ai mis une frontière. Et je veux que vous commenciez à vous demander, eh bien, quel genre de frontière personnelle est-ce que j'ai? Est-ce que je mets toujours une frontière, puis je l'enlève quand elle devient inconfortable? C'est facile de se mettre au régime dimanche soir après le dîner. C'est facile de noter tout ce que vous n'allez pas manger la semaine prochaine jusqu'à avoir faim. Donc, pourquoi ne priez-vous pas là-dessus? Imposez-vous des frontières sur votre alimentation. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas jouir de la nourriture. Dieu a mis la nourriture sur terre pour que nous en jouissions, mais nous ne voulons pas qu'elle nous domine et devienne notre patron. Êtes-vous prêt pour autre chose? Vous en avez assez de la nourriture, donc je passe à la chose suivante. Bien, parlons de l'argent. Il y a un autocollant qui dit « Je ne peux pas être à découvert, il me reste encore des chèques. » Et malheureusement, c'est le style de vie de beaucoup de gens. C'est à peu près tout ce qu'ils savent sur leurs finances. Il y a des gens qui font des chèques tant qu'ils en ont. Ils ne savent pas si leurs chèques sont sans provision. Il y a des statistiques sur les dettes, et je ne vais pas les lire toutes. J'ai une série là-dessus si vous avez des problèmes financiers et que vous voulez vraiment arranger les choses. Et je sais que c'est très populaire, vous savez, de prier pour un miracle d'annulation des dettes. Vous savez, il y a même des gens qui font des séminaires et voyagent ça et là et imposent les mains sur vous pour l'annulation des dettes. Ils disent que si vous donnez à leur ministère, Dieu annulera vos dettes. Je vais vous dire comment vous acquitter de vos dettes. L'opposé de la façon dont vous vous êtes endetté. Amen. Vous avez trop dépensé et vous vous êtes endetté. Maintenant, il faut que vous dépensiez moins pour vous acquitter de vos dettes. Amen. Vous savez, nous menons si souvent des vies désordonnées et nous attendons que Dieu vienne nous délivrer. Mais la vérité, c'est que nous n'apprenons rien s'il fait ça. Or, Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Et je ne dis pas qu'il ne fera pas un miracle pour vous acquitter de vos dettes, mais je veux vous dire ceci. Et je le crois de tout mon cœur. Si nous faisons ce que nous pouvons faire, Dieu fera ce que nous ne pouvons pas faire. Mais si nous ne faisons pas ce que nous pouvons faire, donc Dieu ne fera pas ce que nous ne pouvons pas faire. La graine que nous semons, c'est de faire la partie que nous pouvons faire. Et donc, si vous êtes endetté, vous devez demander à Dieu de vous montrer la façon dont vous gaspillez l'argent et les endroits où vous dépensez votre argent. Si vous ne pouvez pas contrôler les cartes de crédit, vous devez arracher cet œil-là, couper cette main-là. C'est exactement ce dont parle ce verset dans Matthieu. Si votre carte de crédit entraîne votre chute, coupez-la. Si vous ne pouvez pas vous débrouiller, si vous allez au magasin et qu'il y a un tas de trucs en solde dont vous n'avez pas besoin, mais vous ne résistez pas à la pancarte 75% de remise parce que vous avez une âme déchaînée. Peut-être que certains pensent, je croyais que nous assisterons à une réunion religieuse. C'est précisément le genre de truc dont nous devons parler à l'Église. C'est pourquoi les vies des gens sont un tel gâchis et c'est pourquoi ils ne sont pas heureux. Et Dieu parle de ce genre de truc. La Bible dit « Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête » et que l'avidité vole la vie des personnes avides. Nous devons arrêter de vouloir tout ce qu'il y a dans le monde et de le vouloir parce que quelqu'un d'autre l'a et vouloir encore et encore et encore et être prêt à faire n'importe quoi pour l'avoir. Je me demande combien de gens, même ici ce soir, se tuent pratiquement dans des travaux supplémentaires et des heures supplémentaires et ont beaucoup de pression dans leur vie et peut-être prennent des pilules pour les nerfs à cause de toute la pression sous laquelle ils sont pour posséder une maison qu'ils n'habiteront même pas. Sauf peut-être pour dormir, s'ils arrivent à dormir. Je me demande combien de gens prennent 3 emplois pour envoyer leurs enfants à l'université alors qu'ils ne prennent même pas la peine de leur parler. Allez! Je ne dis pas de ne pas les envoyer à l'université, mais un temps avec vous serait plus important que de prendre 3 emplois pour leur donner ce que tous leurs amis ont et finir par ne pas même les connaître. Hébreux 12, verset 11. « Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse, mais plus tard, elle produit le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. » Donc, la moindre discipline, que ce soit boire 2 tasses de café par jour alors que vous en voulez 10, ou prendre la crème fouettée 1 fois par semaine alors que vous aimeriez la prendre tous les jours, aucune discipline n'est drôle en ce moment, ne semble être un sujet de joie. Mais mes chers, plus tard. Mais plus tard.
Amen.
Eh bien, je vous ai appris à être en sécurité, à vivre à l'intérieur d'une zone de sécurité. Et cette zone de sécurité est la parole de Dieu. Nous devons apprendre la parole et ensuite, nous devons la mettre en application. Vous apprenez la parole et vous la mettez en application. La connaissance mentale à elle seule ne vous sert à rien. Vous devez la mettre en application. Mais je peux vous assurer que Dieu vous réserve une vie merveilleuse, mais il veut que vous coopérez avec lui pour la voir se réaliser. Dieu a un rôle et vous avez un rôle. Il vous aidera toujours à jouer votre rôle, mais il ne le jouera pas à votre place.